comme je m'intéresse aux cours qui sont donnés aux ouvriers à l'éducation populaire, c'est comme ça que j'ai rencontré Comte. J'ai un article qui va paraître le mois prochain dans la revue Romantisme sur tous les traités et leçons sur l'astronomie populaire qui ont été donnés dans le premier 19e siècle. Donc là, c'est une toute petite partie de l'article. Alors, hérité des Lumières et de la Révolution française, la question de l'éducation, de l'instruction et de l'enseignement du peuple, à savoir donc la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, comme la définissait Saint-Simon, cette question donc devient centrale dans le premier 19e siècle. L'adjectif populaire traduit désormais les valeurs du discours progressiste. Carnot, dans un rapport à Napoléon, présente les promoteurs de la méthode mutuelle dans l'enseignement comme les créateurs et directeurs de l'éducation populaire. Et Guizot, dans ses mémoires, aborde la période en évoquant le mouvement en faveur de ce qu'il appelle à son tour l'instruction populaire. L'adjectif populaire est également accolé aux livres, aux bibliothèques, aux almanachs, à la science et en particulier à l'astronomie. Comme l'atteste la publication donc en 1844 du traité philosophique d'astronomie populaire d'Auguste Comte, et celle 10 ans plus tard de l'astronomie populaire, œuvre posthume d'Arago. Et ces deux ouvrages sont issus des cours publics et gratuits qu'Arago et Comte ont donnés, le premier donc à l'Observatoire dès 1813, et le second à partir de 1831 dans la grande salle des petits pères de la mairie du 3e arrondissement, qui correspond aujourd'hui à peu près à la mairie du 2e arrondissement. Sous la Restauration, donc, et plus encore sous la Monarchie de Juillet, les cours publics et gratuits destinés aux ouvriers se multiplient, ainsi que les leçons et les traités sur les applications journalières de la science. L'astronomie occupe une place particulière, originale, parmi ces enseignements et publications à visée professionnelle, utilitaire. Et elle participe par là à l'éducation populaire. Par l'étude du cours d'astronomie populaire donné par Auguste Comte à sa création donc au sein de l'Association Polytechnique, je vais m'intéresser donc dans cette conférence à la place de l'éducation populaire dans l'œuvre d'Auguste Comte. Et comme l'atteste son discours sur l'esprit positif publié en 1844 ou son discours sur l'ensemble du positivisme publié en 1848, Comte fait de l'éducation du peuple la condition première de l'émergence du troisième et ultime état, selon lui, c'est-à-dire l'état positif ou scientifique, c'est-à-dire débarrassé de toute référence surnaturelle ou métaphysique. Je cite, « Grâce à l'universelle propagation des principales études positives, se constituera un vaste tribunal spontané, aussi impartial qu'irrécusable, formé par la masse des hommes sensés, devant lequel viendront s'éteindre irrévocablement beaucoup de fausses opinions scientifiques que les vues propres à l'élaboration préliminaire des deux derniers siècles ont dû mêler profondément aux doctrines vraiment positives, qu'elles altéreront nécessairement tant que ces discussions ne seront pas enfin directement soumises au bon sens universel. L'organisation nécessaire d'un tel point d'appui général pour l'ensemble des travaux philosophiques devient, à mes yeux, le principal résultat social que puisse maintenant produire l'entière vulgarisation des connaissances réelles. Le public recherché par la nouvelle école positiviste est celui, je cite encore, des prolétaires, sans toutefois que son enseignement doive jamais exclure aucune classe quelconque. Comte va motiver ce choix des prolétaires par trois raisons principales. Tout d'abord, les prolétaires sont, selon lui, purs de toute influence négative, car l'enseignement traditionnel qui était resté au stade métaphysique les a peu atteints, puisqu'ils étaient quand même à l'écart de l'instruction. Ensuite, ils sont naturellement attirés par la saine philosophie. Enfin, bien sûr, ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Mais la grande question qui se pose, c'est comment et surtout où enseigner donc aux prolétaires. Donc, dans un premier temps, j'évoquerai le rôle qu'a tenu Auguste Comte au sein de l'Association Polytechnique, qui est fondée à Paris au lendemain de la Révolution de juillet 1830, pour diffuser l'instruction gratuite et publique des ouvriers. Puis, dans un deuxième temps, je présenterai le cours d'astronomie élémentaire qu'Auguste Comte destinait aux ouvriers parisiens à partir de janvier 1831. Comment rendre populaire une science aussi élaborée et mathématisée que l'astronomie ? Pourquoi ce choix d'un cours d'astronomie ? Quelle utilité pour le peuple ? Qu'est-ce qu'il doit apprendre du ciel, le peuple ? Et enfin, j'essaierai d'appréhender le public qui suit les cours d'Auguste Comte. Tout d'abord, Auguste Comte et l'Association Polytechnique. Comme le stipule l'article 1er de son règlement adapté en août 1803, je cite, « L'Association Polytechnique, dont le centre est à Paris, se compose exclusivement d'anciens élèves de l'École Polytechnique. Son établissement date de la glorieuse Révolution de 1830. Son but est de coopérer par tous les moyens au développement de la prospérité de la patrie. » Alors, parmi les 105 premiers fondateurs de l'association Polytechnique se trouvent Victor Arsène Le Chevalier, Auguste Comte, le père de France Choiseul Praslin, qui va être élu vice-président de l'association, le député Victor de Tracy, le fils du philosophe, et qui va devenir le premier président de l'association. Avant sa création officielle, donc fin août, début septembre 1830, plusieurs membres de l'association Polytechnique avaient organisé donc des cours pour les ouvriers blessés et les convalescents des journées du 26, 27, 28 juillet 1830, qui avaient conduit à la fin de la Restauration, donc par l'abdication du roi Charles X, et à son remplacement par le roi Louis-Philippe, et donc à la mise en place d'une monarchie constitutionnelle de type nouveau, conforme aux aspirations de la bourgeoisie libérale, et reposant néanmoins toujours sur le maintien donc du suffrage censitaire. Alors, le premier cours officiel de l'association Polytechnique est celui de physique et de chimie que Victor Le Chevalier donne dans l'amphithéâtre du Conservatoire des Arts et Métiers de septembre à novembre 1830. Or, selon le rapport que un des secrétaires généraux de l'association Polytechnique, Alexandre Messia, fait en août 1832, il précise que ce cours, je cite, d'abord ne compta qu'un petit nombre d'auditeurs, mais bientôt les ouvriers y accoururent en foule. Et, dès le mois de décembre, 500 personnes le suivaient avec assiduité. Or, ce premier cours va s'interrompre assez rapidement, faute de salle, puisque après, en novembre, reprennent les enseignements officiels du conservatoire. Et le 14 décembre, alors qu'il donne donc depuis 1826 à l'Athénée Royale un cours de philosophie positive accompagné d'un cours d'astronomie aux gens du monde, et non aux prolétaires, Auguste Comte propose au président de l'association Polytechnique, donc à Victor de Tracy, je cite dans la lettre qu'il lui adresse, de présenter aux ouvriers un cours élémentaire d'astronomie générale, ayant pour principal objet l'exposition raisonnée des phénomènes essentiels du système monde, accompagnant de l'indication des plus importantes applications. Donc à partir de janvier 1831, tous les dimanches à midi, donc dans la grande salle des petits pères de la mairie du 3e arrondissement, Auguste Comte va donner gratuitement un cours de 2 heures d'astronomie élémentaire pour les ouvriers parisiens. Je reviendrai sur le contenu de ce cours dans ma deuxième partie, mais auparavant, je souhaiterais montrer donc le rôle qu'Auguste Comte a joué au sein de l'association Polytechnique, rôle qui a parfois été un peu surestimé par les panégyristes de Comte et aussi par ceux de l'association Polytechnique, parce que Comte a des liens quand même très très ambigus avec l'association Polytechnique que j'aimerais un petit peu vous présenter. Donc on l'a vu, à sa fondation, il est engagé, il apparaît dans les premiers statuts, il écrit à son président, mais rapidement, il va quand même la quitter, voire la renier même. Ce serait bien de savoir pourquoi. Alors, comme je l'ai souligné, il fait partie donc des signataires de son règlement, adopté en août 1830, et élu avec 3 autres membres, secrétaire de l'association. Et c'est lui qui va rédiger, le 22 décembre 1830, au nom du comité de l'association, une adresse au roi des Français, dans laquelle il justifie le soulèvement qui s'est produit la veille à Paris lors de l'annonce du verdict de Clémence à la Chambre des Pairs envers les anciens ministres du gouvernement de Charles X. Il dénonce, je cite, « l'extrême incurie des chambres et du ministère pour tout ce qui concerne l'instruction du peuple. Leur dédain pour sa participation aux avantages sociaux en proportion de l'importance de ses travaux. Enfin, l'infériorité constatée, soit sous le rapport intellectuel, soit sous le rapport moral d'une vaine aristocratie qui n'a d'autre titre à la direction de la société que sa naissance ou sa fortune. » Donc il remet en cause, en fait, vraiment l'Assemblée nationale. « Telles sont les causes radicales, explicites ou implicites, des mécontentements populaires, auxquels une affaire critique a permis de donner une expression qui, même comprimée aujourd'hui, se reproduirait nécessairement dans toute occasion favorable. » Donc il légitime complètement cette insurrection populaire. Alors, dans le premier compte-rendu trimestriel des travaux de l'association Polytechnique qui est publié en juillet 1830, et également dans le second, qui sera publié en janvier 1833, son nom est cité parmi les 4 vice-présidents. En revanche, son nom n'apparaît plus du tout dans le troisième compte-rendu, ni dans les suivants. En effet, dès le mois de juin 1832, Auguste Comte va se désolidariser de l'association Polytechnique. Il va même jusqu'à nier tout lien avec elle, comme l'atteste ce courrier qu'il adresse au maire du 3e arrondissement, le 22 juin 1832. Je cite. La mesure générale prise relativement à la suspension de tous les cours destinés aux ouvriers, mesure que je n'ai point d'ailleurs à discuter ici, ne me concerne spécialement à aucun titre. Mon cours d'astronomie est fait en mon nom propre et privé, non sans être rattaché à aucune association quelconque. C'est ainsi que je l'ai expressément représenté dès l'origine et que mon auditoire l'a toujours conçu. Dans le rapport précédemment cité d'Alexandre Messias, il précise aussi, Messias, que messieurs Comte et Raucourt continuèrent leur cours, chacun à leur nom propre. Et à l'automne 1832, donc les cours destinés aux ouvriers sont encore suspendus, je reviendrai sur cette suspension. Et Comte se plaint cette suspension, comme il l'écrit à François Guizot, alors ministre de l'Instruction publique. Le 26 du mois dernier, conformément à la marche que vous m'aviez tracée, j'ai eu l'honneur de vous demander officiellement, en votre qualité du ministre de l'Instruction publique, de vouloir bien autoriser monsieur le maire du 3e arrondissement à mettre à sa disposition, comme dans les deux années précédentes, la grande salle des petits pères, tous les dimanches de 1h à 3h, pour le cours d'astronomie que j'ai coutume d'y faire gratuitement aux ouvriers de Paris. Une lettre ministérielle du 2 novembre m'a informé que vous aviez donné l'ordre de hâter le rapport officiel relatif à cette affaire et que la décision m'en serait très incessamment communiquée. Néanmoins, aujourd'hui 27, rien n'est encore arrêté. Vous avez bien voulu, monsieur, me déclarer spontanément l'extrême importance que vous attachez à l'instruction positive du peuple. J'ai donc lieu d'être étonné d'éprouver de tels délais dans une affaire aussi simple, même en faisant la part de l'esprit formaliste plus ou moins inhérent à toute opération ministérielle. À moins de supposer, ce que je répugnerais à admettre, que la marche générale du gouvernement actuel s'oppose à l'exécution de vos desseins à ce sujet. Donc il fait preuve quand même d'une certaine audace quand il s'adresse au ministre, et on va voir que ça continue, puisqu'il va, dans la suite de la lettre, souligner donc son refus d'introduire des dissertations politiques dans son enseignement, dont, précise-t-il, le caractère exclusivement scientifique était généralement reconnu. De quoi s'agit-il ici en fait pour le ministère ? De coopérer ? Par la seule concession d'une salle entièrement disponible, un enseignement gratuit dont l'objet est bien circonscrit, l'utilité évidente et incontestée. Quant à la juste garantie que le gouvernement a droit d'exiger contre l'introduction de dissertations politiques dans un tel enseignement, vous me connaissez assez, monsieur, pour devoir être pleinement convaincu que je suis incapable de compromettre jamais à ce point la dignité de la science. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent comprendre que développer dans les intelligences populaires le goût et l'habitude des connaissances et des méthodes positives est une opération sociale d'un trop haut intérêt, par ses conséquences certaines, quoique éloignées, pour que je ne doive pas m'attacher soigneusement à la préserver de tout mélange hétérogène. Vous, monsieur, qui depuis longtemps connaissez parfaitement ma manière d'envisager la science sociale, vous savez si j'ai jamais été disposé à soumettre mes recherches en ce genre aux esprits incompétents. La règle que vous avez adoptée relativement à l'instruction populaire, encouragement aux cours scientifiques, opposition aux cours politiques, ne saurait donc éprouver de ma part aucun obstacle. Je l'ai pratiqué en plus d'une occasion longtemps avant que vous ne me l'eussiez présenté comme une maxime ministérielle. Seulement, je trouverais étrange d'exécuter la seconde moitié de cette règle en négligeant la première. Il va vraiment mettre en garde, même le ministre, dans son refus éventuel de réouvrir son cours, puisqu'il dit « L'irritation produite par un été de crise a pu seule rendre momentanément excusable la brutalité avec laquelle le gouvernement fit fermer indistinctivement au mois de juin dernier tous les cours gratuits destinés aux ouvriers parisiens. » Mais si, après un tel précédent, la réouverture d'un cours dont le caractère exclusivement scientifique était généralement reconnu, se trouvait plus longtemps entravé, vous auriez à craindre, monsieur, que tous ceux dans le public impartial qui ne connaissent pas comme moi vos dispositions sagement progressives ne vissent en de tels délais que des mesures dilatoires tenant à une répugnance systématique du gouvernement contre le développement intellectuel des classes inférieures. Ne s'occupant lui-même en aucune façon de l'instruction scientifique du peuple et repoussant l'intervention gratuite et spontanée d'hommes compétents, offrant toutes les garanties nécessaires, comment pourrait-il en effet échapper à un tel soupçon ? D'autant plus que la loi Guizot de juin 1833, qui rendait l'obligation aux communes de plus de 500 habitants d'ouvrir une école pour les garçons, n'avait pas encore été votée, puisque là, on est en novembre 1832. Et donc Comte finit par obtenir, quelques semaines plus tard, l'autorisation donc de rouvrir son cours d'astronomie. Et ce cours, il va le donner pendant toute la période de la monarchie de Juillet, donc jusqu'en 1848. Dans ces courriers que je vous ai lus, on voit quand même que Comte faisait preuve d'une certaine mauvaise foi, puisque si ce cours est effectivement donné en son nom propre depuis juin 1833, il a bien été créé au sein de l'Association Polytechnique, comme en témoigne son courrier du 14 décembre, mais quand on en témoigne aussi l'adresse qu'il adresse au roi. On va essayer de comprendre pourquoi cette attitude d'Auguste Comte vis-à-vis de l'Association Polytechnique. Et donc pour cela, je vais revenir sur les premiers mois de l'histoire de l'Association Polytechnique pour comprendre sa position. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en janvier 1831 que les cours vont reprendre dans des salles qui sont mises à disposition par les maires d'arrondissement qui avaient été sollicitées par le préfet de la Seine, Odilon Baron. Donc on a Marie-Pierre Guibert qui enseigne l'arithmétique et la géométrie appliquée aux arts, Auguste Comte l'astronomie élémentaire, Antoine Raucourt la philosophie positive, Alexandre Messas l'arithmétique et la géométrie élémentaire. Victor Le Chevalier, lui, n'enseigne plus la physique comme il l'enseignait au Conservatoire des Arts et Métiers, hein, mais l'histoire politique. Et son cours, c'est à partir de ce cours qu'on va comprendre aussi la position d'Auguste Comte, quoi comprendre, essayer de la comprendre. Et donc son cours va faire l'objet, à partir du printemps 1831, je rappelle aussi que le préfet Odilon Barrault, on a vu qui était assez favorable justement à l'association polytechnique, en fait a été remplacé hein, par un autre préfet qui l'est beaucoup moins, donc ce qui explique la surveillance policière mise en place aussi. Et donc le cours de chevalier fait l'objet d'une surveillance policière car, comme le cite un rapport de police, les doctrines professées dans ce cours paraissent de nature à donner à ses auditeurs peu éclairés des impressions fausses et dangereuses. De même, le cours d'hygiène populaire qui est donné par le docteur Perron est surveillé. Et un rapport de police note « Son cours préliminaire n'est qu'une diatribe fine et spirituelle contre les personnes qui gouvernent l'État, contre les riches, les gros commerçants et les manufacturiers. » Donc souligne un rapport de police du 5 juin 1831. Et cette surveillance donc policière, elle s'est poursuivie pendant l'automne 1831 et jusqu'au printemps 1832. Et un rapport de police au ministre de l'Instruction publique en mai 1832 souligne à nouveau le caractère subversif du cours d'histoire de Victor Le Chevalier. On peut lire donc dans ce rapport « Si Monsieur Le Chevalier, en vue de procurer au peuple, c'est-à-dire aux classes les moins aisées, l'instruction puisée dans les maisons d'éducation, il nous semble s'écarter de ce but de vouloir plutôt faire un cours d'histoire politique comparé avec cette tendance bien marquée de donner l'avantage aux institutions républicaines sur tout autre. » Et un autre rapport, de mai 1832, fait cette fois allusion aux tensions qui existent entre les enseignants de l'association et qui va expliquer entre autres l'attitude de Comte. Donc on lit dans ce rapport, dans une réunion des associations, le sieur Chevalier proposa de prendre une couleur politique. Les avis furent partagés et depuis ce jour, les réunions devinrent plus rares, moins nombreuses et elles ne comptent plus maintenant que pour un dixième au plus de ceux qui s'y rendaient dans l'origine. Et dans le rapport du secrétaire général de l'association polytechnique, donc Alexandre Messia, il rend également compte de ces dissensions, il les explique un petit peu. Donc, il dit dans son rapport, par l'exposé de nos vicissitudes pendant la première année, on a dû voir que l'administration ne se montrait pas très empressée de soutenir les cours. Quelles que fussent ses véritables intentions, je crois devoir dire ici qu'on lui a fourni contre nous les armes qu'elle s'empressa de saisir. En effet, les cours n'ont pas tous été dirigés comme on avait annoncé qu'ils le seraient. Il en est donc la tendance, dans un moment de révolution, était peut-être involontairement plus propre à entretenir l'agitation qu'à l'apaiser. Si, comme je l'ai toujours conseillé, tous les professeurs eussent voulu s'occuper uniquement de donner au peuple des connaissances positives, dont personne ne conteste l'utilité, l'administration n'aurait pu s'opposer comme elle l'a fait à cette utile institution. Elle serait maintenant assise sur des bases stables et l'association polytechnique aurait ainsi atteint le but qu'elle s'était proposé. Et en effet, ces dissensions donc au sein des enseignants vont conduire à la réorganisation donc de l'association polytechnique qui va lancer donc une souscription pour l'instruction des ouvriers et à la fin du mois de mai 1831, l'association polytechnique devient l'association pour l'instruction du peuple, une partie hein, de l'association polytechnique. Et après sa dissolution au lendemain de la surrection parisienne, donc des 5 et 6 juin 1832, surrection donc républicaine liée entre autres aux obsèques d'Évariste Galois puis du général Lamarque. Et donc cette association va être réorganisée en octobre 1832 sous le nom d'Association libre pour l'éducation gratuite du peuple. Parmi ses dirigeants, donc de cette nouvelle association issue de l'association polytechnique, figurent donc plusieurs hommes politiques de plus en plus hostiles, voire franchement opposés au gouvernement de Louis-Philippe, tel Dupont de l'Eure qui va être le président donc de cette nouvelle association, Odilon Barrault, hein, Lafayette, Cabet, Arago, Voyer d'Argenson. Et on retrouve aussi hein, parmi ses membres tous les propagateurs des écoles mutuelles et les fondateurs de la Société pour l'instruction élémentaire comme Alexandre de Laborde, Charles de Lastierie. Alors cette association propose des cours pour pour les deux sexes, ce que ne faisait pas l'association polytechnique, mais ils sont moins diversifiés pour les femmes, et le cycle d'enseignement est plus court. Sinon, elle propose donc des cours de lecture, d'écriture, de calcul, de dessin linéaire, de géographie, d'histoire, de comptabilité commerciale et industrielle, de géométrie. Donc c'est à la fois des savoirs professionnalisants, mais aussi des savoirs qui relèvent plus de la science sociale. Et dès leur reprise, certains cours de l'association libre pour l'éducation du peuple sont à nouveau l'objet d'une surveillance policière qui va entraîner pour certains donc leur fermeture subite. Et une requête va être faite par le comité central de l'association auprès du ministre de l'Instruction publique pour leur demander donc leur réouverture. Et ce n'est que le 13 mars 1833 que le ministère consent, à la suite de l'intervention donc d'Arago et de 16 autres députés, à réouvrir les cours. Alors depuis le 7 février 1833, le chevalier a laissé sa place à Cabet, hein, comme secrétaire général de l'association, Étienne Cabet. Et en décembre, deux cours d'hygiène qui s'ajoutent aux 34 cours qui ont déjà été créés vont être brusquement fermés par le préfet de police. Il faut faire un lien avec la fermeture de ces cours et la création donc par Étienne Cabet, hein, du journal Le Populaire, hein, dans lequel il s'attaque ouvertement au gouvernement. En mars 1834, donc Étienne Cabet, pour échapper aux poursuites judiciaires, va s'installer en Angleterre et c'est là qu'il va rédiger son célèbre voyage en Icarie. Et deux mois plus tard, donc en avril 1834, l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple va s'arrêter puisque tous les cours vont être fermés suite donc à la loi répressive sur les associations du 10 avril 1834. Donc l'histoire de ces associations, on le voit par ses membres, hein, montre qu'elles souhaitaient éduquer le peuple, donc les ouvriers en particulier, dans un but de formation politique pour l'émanciper, hein, et l'inciter à se révolter ouvertement, hein, contre le gouvernement de Louis-Philippe qui le refuse le droit de vote. Et la présence parmi les membres de l'association de plusieurs hommes politiques et députés ouvertement au gouvernement atteste cette position et l'affaire du mois d'avril 1834 qui est liée donc à l'insurrection lyonnaise et parisienne confirme qu'il y a énormément d'adhérents de l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple, hein, parmi les insurgés. Alors pour se démarquer donc de cette association, l'association polytechnique qui se reconstitue en mai 1832 va affirmer son caractère résolument apolitique où seules les sciences positives, donc à savoir des cours de géométrie et d'arithmétique, de dessin linéaire, de figures et d'ornements, d'astronomie, mais surtout pas des cours d'histoire ni de géographie, hein. Donc elle va affirmer donc ce caractère de sciences professionnalisantes, vont être enseignées. Et comme le souligne le premier rapport de l'association polytechnique, désirant assurer son avenir, l'association polytechnique s'est interdit dorénavant tout acte et toute polémique politique. Rapprocher les anciens élèves et leur fournir les moyens de s'entraider, répandre parmi les classes laborieuses les premiers éléments des sciences positives, surtout dans leur partie applicable, s'occuper enfin des sciences et des arts qui peuvent intéresser les hommes nourris d'une instruction commune. Tel est son but spécial, bien défini par le nouveau règlement. Et en 1834, elle réaffirme donc ce caractère apolitique, être utile aux ouvriers en les initiant aux connaissances scientifiques les plus applicables aux arts qu'ils pratiquent, ouvrir la carrière à quelques intelligences distinguées et les aider à prendre dans le monde la place qui leur appartient. En un mot, préparer par ces enseignements la supériorité industrielle de notre pays, tel est le but que l'association polytechnique s'est proposé. Éloignée de toute pensée que ne se rattache point à ce but unique, elle a compris que la politique et tout ce qui peut y donner directement accès ne devrait pas faire partie de ce qu'elle enseigne. C'est pour ce motif qu'elle s'est abstenue d'ouvrir des cours d'histoire, d'économie politique, de géographie industrielle, qui sont d'ailleurs moins immédiatement utiles aux ouvriers que ceux d'arithmétique, de chimie ou de dessin. Et François Guizot, dans une lettre qu'il adresse au président donc de l'association polytechnique Choiseul-Praslin, confirme son soutien au rétablissement donc de cette association et des cours si, je cite, « les matières politiques seront expressément bannies des cours, où l'on ne s'occupera que d'une instruction relative aux arts et professions industrielles ». Et donc là, on voit bien qu'il s'agit de diffuser des savoirs techniques professionnalisant aux ouvriers et non une pensée sociale et politique. Et au même moment, donc que Guizot adresse cette lettre à Choiseul-Praslin, Auguste Comte l'évoquait, affirmait aussi, hein, au ministre Guizot sa volonté de donner aux ouvriers qu'une instruction positive. Il insiste dans ses courriers sur l'impossibilité, à ses yeux, d'enseigner au peuple la science sociale. Lorsqu'on s'est proposé pour but la prépondérance de la philosophie positive, on ne saurait être soupçonné de vouloir détruire d'une main ce que l'on lève de l'autre en se livrant à des discussions métaphysiques ou en poussant l'inconséquence jusqu'à présenter aux esprits les moins cultivés des théories qui peuvent en effet devenir aujourd'hui positives, mais en exigeant de la part des intelligences une longue suite de difficiles études préliminaires. Et donc maintenant, il convient de s'interroger sur la place de l'astronomie dans ces savoirs qui sont dispensés aux ouvriers, savoirs qui se veulent professionnalisants, et donc d'étudier plus en détail le cours d'astronomie élémentaire qu'Auguste Comte a fait pour les ouvriers parisiens de 1831 à 1848. Alors, dès la Restauration, la formation technique des ouvriers a préoccupé quelques ingénieurs polytechniciens et les patrons philanthropes. J'ai consacré un colloque à Charles Dupin et puis à Gérandeau, où on voit justement la préoccupation de ces hommes pour la formation technique. Mais pour certains, cette formation technique, elle ne doit pas être dissociée d'un projet donc plus général d'éducation ouvrière, comme l'attestent les débuts de la création de l'association polytechnique et surtout celle de l'association libre pour l'éducation gratuite des ouvriers. Et pour Auguste Comte, la formation technique ne constitue qu'un prétexte. Le seul objectif étant de faire pénétrer l'esprit positif dans les têtes ouvrières, ainsi qu'il l'exprime en 1825 à son camarade polytechnicien Jean-Pierre Vallat, alors ingénieur des ponts, et qui s'apprêtait à répondre à l'appel lancé par Charles Dupin depuis le conservatoire pour créer à l'instar donc de Charles Dupin un cours de géométrie et de mécanique appliquée aux arts. Donc il lui écrit « Prends hardiment en géométrie, en mécanique, et même si on te laisse faire en physique et en chimie. Tout ce que tu croiras pouvoir être compris de ton auditoire. Et ne t'inquiète pas si tout cela forme un véritable ensemble qui puisse satisfaire un esprit méthodique, car cela n'est pas possible actuellement. Le cours de Dupin ici est excessivement mauvais. Et je ne doute pas que tu fasses mieux. Aussi sois tranquille sur ce point et va bon train. L'essentiel, c'est que les ouvriers se frottent à la science pour prendre en dégoût toute théologie et toute métaphysique, et qu'en même temps, ils contractent l'habitude de voir dans les savants leur père spirituel. Le temps fera le reste et mettra de l'ordre dans une chose où aujourd'hui il ne peut guère y en avoir et qui n'en est pas moins à mes yeux d'une importance majeure. » Donc il ne faut pas s'étonner finalement que Comte propose, dans le cadre de l'association polytechnique, d'offrir au public un cours d'astronomie. Et dans le courrier donc, qu'il envoie au président de l'association polytechnique le 14 décembre, dont je vous avais lu un petit extrait, il justifie ainsi son choix de l'astronomie. Et on retrouve finalement les mêmes arguments qu'il exprimait donc à Valens quelques années plus tôt. « Quoiqu'un tel cours ne puisse être aux ouvriers d'un usage immédiat, son utilité n'est pas douteuse, puisqu'il a pour but de leur donner des notions justes et nettes sur un sujet qui, même involontairement, fixe l'attention de tous les hommes, et sur lequel, par conséquent, à défaut d'idées saines, ils en ont nécessairement d'absurdes, qui exercent inévitablement une influence funeste sur le système général de leur intelligence. Quant à l'aptitude des ouvriers pour un enseignement de cette nature, je suis persuadé que, si l'on se dégage des préventions dérivées de nos habitudes sociales, on les trouverait réellement mieux disposés à concevoir nettement une telle exposition que les gens du monde, qui n'ont pas fait les études préliminaires convenables, et auxquels j'adresse cependant tous les jours des cours ayant le même objet. Personne ne sent plus profondément que moi combien il importe de maintenir avec sévérité dans un système complet d'instruction la hiérarchie naturelle des sciences. Mais il ne saurait encore être en notre pouvoir d'organiser pour les ouvriers une série régulière d'études scientifiques. Et jusque-là, je suis convaincue que nous devons essentiellement nous attacher à répandre parmi eux des notions positives, propres à éveiller dans leur esprit le goût et le besoin d'études rationnellement dirigées sur toutes les branches fondamentales de la philosophie naturelle. Le cours que j'offre me paraît éminemment propre à une semblable destination. J'espère d'ailleurs qu'il suscitera l'intérêt des ouvriers et pourra éveiller en eux un sentiment de leur dignité par l'attrait que leur offrira un nouvel enseignement théorique exclusivement destiné jusqu'ici à l'usage des messieurs. Et donc, tous les dimanches, midi, dans la grande salle donc des petits pères de la mairie du 3e arrondissement, il va donner, Auguste Comte, un cours de janvier 1831 à juin 1832, puis à nouveau donc à partir de décembre 1832. Donc là, j'ai mis des affiches de cours que j'ai eues grâce à David, qui sont donc des affiches de la maison Auguste Comte, qui annoncent l'ouverture de ce cours. Et donc en 1844, Auguste Comte va publier son cours sous le titre philosophie, d'astronomie populaire ou exposition systématique de toutes les notions de philosophie astronomique, soit scientifique, soit logique, qui doivent devenir universellement familières. Et chacun donc des 23 chapitres qui composent l'ouvrage sont, comme il le dit dans la préface, exactement une leçon orale. Ensuite, comme Arago l'avait fait quelques années auparavant, il insiste donc dans sa préface sur l'absence de connaissances mathématiques. Je cite « Je me suis essentiellement attaché ici à n'exiger du lecteur aucune préparation mathématique que celle qui résulte communément aujourd'hui d'une première année d'études élémentaires. » Et il souligne aussi la nécessité d'une sage vulgarisation du système des conceptions astronomiques. Donc, si vous regardez la définition dans le Petit Robert de vulgarisation, il est écrit que ce terme apparaît en 1852. Or, non, on compte l'emploi avant, puisqu'on le trouve dans la préface de cet ouvrage en 1844. Et donc, pour Comte, l'astronomie, plus que tout autre savoir, pouvait opérer donc dans les esprits la révolution mentale qu'il espérait. Puisque, après les mathématiques proprement dites, l'astronomie constituait pour lui la base de la pyramide des sciences et donc la discipline l'a plutôt passée à l'état positif, comme il l'expose dans son discours sur l'esprit positif qu'il publie en 1844. Et ce discours sur l'esprit positif qu'il publie en 1844 sert en fait d'introduction à l'ouvrage sur l'astronomie. Ça précède finalement véritablement le cours d'astronomie. Et il dit dans ce discours « Cette prépondérance nécessaire de la science astronomique dans la première propagation systématique de l'initiation positive est pleinement conforme à l'influence historique d'une telle étude, principal moteur jusqu'ici des grandes révolutions intellectuelles. Le sentiment fondamental de l'invariabilité des lois naturelles devait en effet se développer d'abord envers les phénomènes les plus simples et les plus généraux, dont la régularité et la grandeur supérieure manifestent le seul ordre réel qui soit complètement indépendant de toute modification humaine, avant même de comporter encore aucun caractère scientifique. Cette classe de conception a surtout déterminé le passage décisif du fétichisme au polythéisme, pourtant partout résulté du culte des astres. » Et donc après 100 pages donc de discours préliminaires sur l'esprit positif, dans lequel donc il répète la nécessité de se détourner donc de la recherche des causes pour se cantonner vraiment à l'examen des faits, qui définit donc le positivisme, il va y avoir 4 parties donc dans l'ouvrage, 200 pages chacune, véritablement sur l'astronomie cette fois positive. Mais cette astronomie que propose Comte est strictement planétaire, limitée aux frontières donc du système solaire, et qui exclut complètement la notion d'univers. Pour Comte, les astres extérieurs, à savoir les comètes, les étoiles, n'existent pas, et surtout il nie aussi les récentes découvertes, comme la mise en évidence d'une parallaxe stellaire par Bessel, c'est-à-dire qui permet de déterminer en fait les premières mesures précises d'une étoile fixe. Pour lui, le monde est notre monde, uniquement constitué des astres intérieurs, à savoir le Soleil, les planètes, les satellites. Et donc, c'est complètement indépendant du reste de l'univers. Finalement, pour Comte, ce qu'il appelle la saine astronomie, c'est la prévision de l'état du ciel à tout moment. Et finalement, l'astronomie est pour Comte surtout un moyen de promouvoir sa philosophie et par là, donc, son projet de réforme sociale. Il ne cherche pas à instruire les ouvriers en leur enseignant les découvertes, les conquêtes et les résultats de la science astronomique, comme a pu le faire Arago dans le cours qu'il a proposé dès 1813. Mais Comte, par son cours donc d'astronomie, cherche à former les esprits en exposant toutes les méthodes, toutes les doctrines qui forment selon lui donc les savoirs astronomiques, qu'il considère, comme je l'ai dit, comme la base de la science de l'humanité. C'est donc pas le ciel qu'il décrit dans ses cours et donc dans l'ouvrage, mais les conceptions successives des astronomes qui s'y sont intéressés, et donc il propose une approche historique de l'astronomie. Et en plus, il réfute donc dans son ouvrage tout plaisir au lecteur auquel on ne présente finalement aucun des spectacles habituels planétaires. Les descriptions donc dans l'ouvrage et donc dans le cours de Comte restent purement numériques. L'essentiel du propos de Comte concerne les méthodes de repérage et la mécanique. Il ne garde l'astronomie que les aspects qui doivent servir son discours philosophique. Alors, on peut se demander, vu le titre donc de l'ouvrage, finalement, quelle place exactement occupait aussi la philosophie dans le cours de Comte sur l'astronomie. C'est difficile à mesurer, mais on sait déjà que selon donc son propre témoignage, elle n'a cessé de croître entre 1831 et donc 1848. Et on peut supposer finalement que la crainte de la censure politique limitait aussi hein, son enseignement philosophique. Hein. On l'a vu, l'attitude qu'il a avec l'association Polytechnique et surtout bah, l'association Loupe pour l'éducation gratuite du peuple est assez ambiguë. Il a un côté un petit peu opportuniste, hein. il a pas envie que son cours soit fermé. Hein. Ce qui est paradoxal, c'est que, on l'a vu, il affirme donc le caractère apolitique de son enseignement, mais en même temps, dans une des lettres qu'il adresse à Guizot, il va parler de la vertu morale de l'astronomie. Et là, donc, on n'est plus dans une dimension philosophique, voire politique, puisqu'il écrit « Ce cours a pour objet unique, exclusif, de donner à mes auditeurs des idées générales exactes des principaux phénomènes géométriques et mécaniques de notre système solaire. J'en sens trop profondément l'importance, la gravité et, j'ose le dire, la dignité de la science pour y jamais mêler rien d'hétérogène dans quelque sens que ce soit. » L'instruction positive du peuple a toujours été pour moi un but, et un but capital, jamais un moyen. Je suis sûr et bien convaincu, monsieur, que la propagation graduelle et convenable dans toutes les classes de la nation du goût dominant, de l'habitude, ensuite il y a un mot illisible dans la lettre, des considérations positives est de nos jours le seul fondement possible qu'on puisse donner à l'esprit d'ordre et de progrès. En janvier 1848, Comte fait une démarche donc auprès du maire du 3e arrondissement pour qu'on l'autorise à substituer en totalité l'enseignement de la philosophie positive à celui de l'astronomie. En vous demandant, comme de coutume pour mon enseignement gratuit, la libre disposition de la plus grande salle des petits pères tous les dimanches de midi à 3h depuis le 30 janvier jusqu'à la fin de juillet, je dois cette année vous soumettre loyalement la modification exceptionnelle que je me propose d'essayer. Sans renoncer réellement au cours d'astronomie que j'ai fait pendant 17 ans, je voudrais tenter cette fois de le remplacer par un cours philosophique sur l'histoire générale de l'humanité, pour donner au peuple une juste idée de l'intime liaison du présent avec l'ensemble du passé, afin de concevoir sans utopie l'avenir social. Ce nouveau cours ne serait au fond que le développement plus complet et plus méthodique du préambule philosophique que j'ai de plus en plus étendu chaque année avant de commencer l'exposition astronomique et qui, l'an dernier, remplit 12 longues séances sans exciter la moindre réclamation. Si cet essai réussit, je compterais dans les années suivantes faire alterner le cours astronomique et le cours historique. Et au lendemain donc, de la Révolution de 1848, qui renverse donc la monarchie de Juillet et instaure la Deuxième République, Auguste Comte annonce donc sa volonté de fonder donc une association libre pour l'instruction positive du peuple dans tout l'Occident européen. Et 3 jours après la promulgation du suffrage universel masculin, donc le 5 mars 1848, Auguste Comte donc fonde le 8 mars la Société positiviste où les ouvriers seront majoritaires. Et en 1852, il va créer la Bibliothèque du prolétaire, ou système universel de lecture recommandé par Auguste Comte en 150 volumes. Alors pour terminer, je voudrais voir comment les ouvriers, les prolétaires, finalement, ont accueilli le cours d'astronomie de Comte. Alors au début, peu d'ouvriers semblent avoir suivi son cours. Comte mentionne dans une lettre fort remarquable, selon ses termes, qui lui a été dressée par, je cite, « un judicieux ouvrier imprimeur, auditeur assidu de mon cours ». Et dans sa correspondance avec John Stuart Mill, on apprend qu'en 1844, un quart seulement de son auditoire est composé d'ouvriers, essentiellement donc des horlogers, des mécaniciens et des imprimeurs. Donc finalement, on sait peu de choses sur cet auditoire ouvrier, hormis ce que va nous apprendre l'ouvrier menuisier Fabien Magnin, qui donc va nous raconter plusieurs années plus tard son expérience d'astronomie des cours de Comte qu'il a suivis. Et donc on apprend que Magnin appartient à un petit groupe d'ouvriers qui suit les cours du Conservatoire des Arts et Métiers et qui réclame au Conservatoire des Arts et Métiers un cours d'astronomie. Et l'un d'entre eux, donc fin avril 1843, va découvrir le cours de Comte et donc va inciter ce petit groupe à le suivre. Et d'emblée, ces ouvriers du Conservatoire des Arts et Métiers vont être séduits donc par les questions philosophiques, politiques et sociales posées dans le cours d'astronomie de Comte. Et en janvier 1846, ces ouvriers font imprimer à leurs frais une annonce de ce cours qu'ils distribuent dans tous les ateliers parisiens et qui, selon donc Magnin, amène à son cours un assez grand nombre d'ouvriers. Alors les ouvriers sont majoritaires au sein de la société positiviste que fonde donc Comte le 8 mars 1848. À la mort de Comte en 1857, il avait désigné donc dans son testament Fabien Magnin comme successeur donc à la société positiviste. Et donc sous le Second Empire, Magnin va lui aussi enseigner l'astronomie mais également la géométrie. Et Magnin participe à la renaissance du mouvement ouvrier. Et quand, 30 ans plus tard, donc en 1878, Magnin évoque donc cette période, et donc n'ignore plus rien donc de la doctrine positiviste, il va rappeler le rôle de l'astronomie dans l'économie générale des savoirs pour les positivistes. Je cite Auguste Comte, savait très bien que l'astronomie avait été le grand moteur qui, en transformant l'esprit des populations, les avait amenés à l'état rationnel où nous les voyons. Et que les principaux progrès dont nous jouissons ont pour la base la diffusion des principes généraux de l'astronomie parmi les populations, où elle fait épanouir ce qu'il y a de germe d'aptitude théorique dans les cerveaux de chacun. Enfin, Auguste Comte savait très bien que l'astronomie est le meilleur moyen pour reconnaître parmi les esprits propres à l'abstraction ceux qui sont capables d'aborder franchement les difficiles problèmes de sociologie et de morale, et pour distinguer parmi eux ceux qui sont à la fois assez modestes et assez énergiques pour s'astreindre d'eux-mêmes à n'affirmer jamais ce qui est exactement connu. Et donc, pour conclure, je voudrais juste insister sur le rôle très différent qu'ont eu dans le premier 19e siècle Arago et Comte, qu'on a tendance à oublier dans la vulgarisation de l'astronomie, parce que souvent on pense justement à Flammarion, avec sa célèbre Astronomie populaire, publiée dans les années 1880. Mais Auguste Comte, même si effectivement son auditoire n'était pas composé majoritairement d'ouvriers, avait vraiment cherché à vulgariser l'astronomie. À côté des célèbres cours de Comte et d'Arago, on trouve dans le premier 19e siècle tout un tas aussi de brochures, de traités qui cherchent à vulgariser l'astronomie. Et il y a aussi Claude-Lucien Bergerie, donc aussi polytechnicien, qui fonde un cours à Metz, un lassar de celui que Charles Dupin a fondé au Conservatoire des Arts et Métiers. Et il va faire aussi un cours d'astronomie. Il justifie son cours comme étant une façon de donner de la culture générale aux ouvriers.
Puis je voulais aussi souligner en conclusion, c'est que le mouvement qui verra la création des universités populaires au moment de l'affaire Dreyfus va se revendiquer aussi des cours de Comte pour les ouvriers.
Je vous remercie.
Justement, à propos de Fabien Magnin, Auguste Comte, il le remercie pour la réouverture de son cours le 25 janvier 1846. Il dit son honorable démarche, cette démarche tout expliquée qui amène des ouvriers. Le lendemain, il écrit à Pierre Lafitte, qui est son disciple le plus proche, quasiment son successeur, premier exécuteur testamentaire. Une petite lettre, je veux vous la lire parce qu'elle est quand même assez savoureuse. Vous avez aussi goûté du style de Comte. Juste au contexte, parce que Auguste Comte a eu plusieurs fois des mailles à partir avec l'écrivain le plus en vue de son époque, il faut bien voir, la femme écrivain, George Sand. Et là, on voit toute l'ambiguïté de sa relation à George Sand. « Mon cher monsieur Lafitte, en réfléchissant davantage à la tentative faite hier par madame Sand pour assister à ma séance, » alors je crois que c'est une séance où il y avait beaucoup de monde, il y avait 300 personnes, là c'était bien plein, « j'ai pensé que je devais à cette illustre femme une démarche de courtoisie qui m'offrirait aussi l'occasion de réparer implicitement envers elle une ancienne brusquerie que je regrette maintenant. » C'est vrai que vous pouvez être opportuniste, alors que quand on a une image un peu différente. Mon intention serait donc de lui écrire sur cet incident afin de mettre à sa libre disposition dès dimanche prochain une place réservée, convenablement choisie derrière moi, en donnant aux gardiens les avis nécessaires. Toutefois, vous sentez qu'il m'importe beaucoup de ne rien hasarder à cet égard, et par conséquent, il est d'abord indispensable de bien constater le fait d'hier, ce qu'on lui a rapporté, pour être sûr qu'elle était vraiment là, parce qu'on lui a dit qu'elle était là et qu'elle est partie parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, il est indispensable de bien constater le fait d'hier, de manière à n'y laisser aucun doute. Comme vous me paraissez avoir apporté un moyen facile pour vous assurer exactement, je vous prie de bien vouloir le faire et d'y ajouter en cas d'affirmative l'adresse formelle de Madame Sand à Paris. Discrètement, il lui dit, parce qu'il ne connaît pas l'adresse, j'aimerais bien savoir l'adresse de Madame Sand à Paris. Je ne serai nullement libre après-demain, mercredi. Oui, en plus, là, c'est des journées réservées à Clotilde. Mercredi, je ne saurais pas y toucher. Mais si demain, mardi, vous pouviez, à l'issue de votre dîner, m'apporter cette double information, je vous en serais fort obligé. Vous sentez qu'il importe de l'obtenir le plus tôt possible afin d'avoir le temps d'échanger un billet avant dimanche. Il l'avait vraiment pour le dimanche d'après. Malheureusement, je crois qu'elle n'est pas revenue, en fait. Au reste, je n'ai pas besoin de vous dire que je compte d'avance sur votre soin et votre empressement pour rouvrir un commencement de relation qui peut exercer une véritable influence sur l'active propagation du positivisme. Car naturellement, il n'a pas perdu son but. Si je peux récupérer Madame Sand de la propagation du positivisme, ça serait très bien. Mais il y avait quand même plus qu'une incompatibilité du mort, il y a une incompatibilité idéologique. Et puis alors juste une petite anecdote aussi, là, avant, le fameux témoignage de Roisin, là, ça concerne sa femme. Alors bon, ça c'est un petit peu dans la biographie. Il faut savoir qu'il s'est séparé de sa femme en juillet 1842, il a quitté le domicile 10 rue Monsieur le Prince, qui est le musée Auguste Comte, que vous pouvez visiter. De Roisin, qui était un auditeur d'Auguste Comte à partir de 1845, donc il a donné cette confidence. Enfin, parmi les auditeurs, il y a Madame Comte, pour qui son mari faisait apporter un fauteuil, qu'elle venait à pas lents occuper vers le milieu du cours. Oui, parce que le cours durait très très longtemps. Hein. Donc elle, ça lui suffisait la moitié du cours. Mais il y avait un fauteuil pour Madame Comte, parce qu'il y avait quand même une représentation sociale. Hein. Et voilà, Madame Comte. Et puis, Madame Comte, c'est une femme intéressante, mais ça c'est un autre débat, qui s'est intéressée au positivisme, qui a eu une incompatibilité du mort entre les deux personnes, mais sa recherche de connaissances était sincère. Hein. Donc elle était une amie de Dittré en particulier, donc après qui a divergé d'Auguste Comte, voilà. Parce que là, on a vu le positivisme d'Auguste Comte, qui est le positivisme avant le grand virage, vous savez, où il va introduire un retour religieux, quelque part. Voilà.
J'aimerais mieux situer cette association, pour introduction, dans la filiation de ce qui existait depuis la Révolution, depuis le Directoire, je crois. Il y a une association philomatique, d'ailleurs, vous avez prononcé le mot, et il y a la TDE. Ce sont des organismes avec la même idée de donner des cours publics, mais un public différent.
Ah oui, voilà, complètement.
À cause de l'endroit. Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions pour situer la chronologie, voilà.
L'Athénée, c'est vraiment pour les gens du monde, hein. C'est des cours publics ouverts à tous, mais ça n'a rien à voir avec l'association polytechnique. Hein. C'est complètement, vraiment deux choses complètement différentes. Il s'avère que Comte, lui, a commencé à donner un cours à l'Athénée en 1826, un cours à la fois de philosophie et d'astronomie pour les gens du monde, comme il le dit, ou pour les messieurs, comme il les appelle. Mais en revanche, ces deux associations n'ont vraiment rien à voir, puisque l'association polytechnique donc, a été fondée en août 1830, par des anciens élèves de l'école polytechnique.
Il a été question plusieurs fois du Conservatoire des arts et métiers. Mmh. Alors, à l'époque, quelle était l'importance numérique? Est-ce qu'on a des idées sur l'importance numérique des auditeurs
au Conservatoire des arts et métiers? Non, parce qu'il n'y a aucun registre, en fait, comme c'était libre. C'est des auditeurs libres, on n'a aucun registre et on a quelques indications. Donc, dans les archives de police, par exemple, pour le cours de Charles Dupin, le cours de Charles Dupin qu'il crée en 1819, puisque c'est à partir de 1819 en fait que le Conservatoire des arts et métiers devient un lieu d'enseignement, puisqu'avant c'est un conservatoire et donc trois chaires sont ouvertes en 1819. Le cours du Dupin avait beaucoup de succès dans des rapports de police. À un moment, on cite 600 personnes, mais font bien d'ouvriers. Alors, il y a écrit 600 ouvriers, mais souvent, en plus, c'est vraiment une élite ouvrière. Hein. C'est quand même l'élite ouvrière qui venait suivre les cours du Conservatoire des Arts et Métiers. Dans un autre rapport, on trouve 200, 300. Et les premiers relevés d'auditeurs datent de la fin du Second Empire. Il n'y a pas de liste de présence.
Et on sait quand il y a eu des laboratoires créés au Conservatoire.
Des laboratoires, de toute façon, il y en a eu dès le début, et puis au moment où la chaire de Dupin est créée, il y a aussi la chaire de Clément Desormes en chimie qui est créée, et donc il y avait un laboratoire attenant à cette chaire. Et par exemple, le cours de chimie n'est pas suivi essentiellement par les ouvriers, c'est surtout le cours de Dupin qui est destiné aux ouvriers.
Ce qui me surprend, la physique, parce que bon, l'astronomie, bon, Auguste Comte devait penser peut-être plus facile de donner au peuple l'idée de ce que c'est que une science qui analyse, non pas les mathématiques, justement, les mathématiques qui n'ont pas un objet d'analyse autre que les mathématiques, alors que la physique ou l'astronomie ou la biologie ou la chimie ont un objet d'étude, quoi. Alors je ne comprends pas pourquoi il est peu question de physique finalement.
Le fait de donner un cours d'astronomie est aussi lié vraiment à la place. La place a joué un rôle très très important aussi dans l'introduction des mathématiques, dans l'étude d'astronomie. Il s'inscrit quand même justement dans cette idée, c'est à la fois une science extrêmement mathématisée, mais on peut l'enseigner sans mathématiques.
Oui.
La géométrie est vraiment un enseignement très important pour les ouvriers, la géométrie, parce que s'il y a des applications extrêmement pratiques hein, pour de différents métiers. Mais la physique, c'était finalement effectivement peu enseigné, ou alors c'était enseigné dans les cours de géométrie aussi, pour les forces.
Ou en mécanique.
Voilà, ces cours de géométrie et de mécanique appliqués aux arts.
Donc, quand même, depuis Kant, je pense que des gens comme Auguste Comte, ils devaient quand même savoir que la scientificité de la physique avait été définie par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire que finalement, la physique, c'est beaucoup plus difficile que les mathématiques. Je ne parle pas de la difficulté de démontrer un théorème, mais philosophiquement parlant, il est beaucoup plus difficile de comprendre ce que c'est que la physique ou la chimie, bon, tout ce qui s'attache à représenter le réel pour agir dessus, c'est beaucoup plus conceptuellement, beaucoup plus difficile que les mathématiques. Parce que les mathématiques, bon, on joue avec des nombres, avec des équations. Donc même s'il a utilisé les mathématiques pour amener justement à une applicabilité de ce qu'on peut raconter en astronomie, moi, j'ai l'impression qu'il a eu peur de se lancer, parce que la physique, c'est difficile.
Moi, je pense que c'est vraiment dans la place qu'il accordait. Les mathématiques, c'est la science suprême, quoi. C'est dans la hiérarchie des sciences, c'est la plus importante. Et donc, quel savoir utilise le plus les mathématiques? C'est l'astronomie, selon moi.
Je pense qu'il y a une autre dimension qu'on ne peut pas négliger, c'est que Comte est en conflit majeur avec Arago. Depuis qu'il a écrit la préface, d'ailleurs, qui est une des raisons pour laquelle aussi sa femme l'a quitté, hein, c'est parce que ça lui a créé des gros problèmes, y compris des problèmes de carrière, financiers, elle n'était pas du tout d'accord. Et donc, quelque part, de se dire, moi, je vais faire un cours qui fait concurrence à la pédantocratie d'Arago, c'était aussi une motivation, je pense, importante. Hein. Derrière l'astronomie, il y a d'abord toutes ces leçons d'introduction qui font de plus en plus longues, et finalement, c'est presque un prétexte. Hein. Il y a toute une idéologie qu'il veut apporter, etc.
Puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a la conception du monde, la création du monde. J'ai cité rapidement le cours de Bergerie, mais ce qui est amusant, c'est que dans le premier 19e siècle, tout un tas d'ingénieurs ou de patrons philanthropes arrivent à expliquer le système monde tout en affirmant justement la suprématie du créateur. L'astronomie aussi était utilisée comme une façon de re-christianiser les ouvriers, parce que c'était une façon de leur démontrer justement la grandeur de l'univers et de leur faire prendre conscience de l'important de ce qu'avait fait le créateur. Ce qui, ça va être complètement différent dans le second 19e siècle, et bien sûr avec Flammarion. Mais donc, l'astronomie aussi occupe une place particulière dans même les sciences sociales en général, parce que philosophiquement, finalement, pour les athées, elle permet de montrer que Dieu n'est en rien dans ce système monde, alors que pour les croyants, ils arrivent à justifier justement la puissance du créateur grâce à l'astronomie, grâce justement aux splendeurs du système monde.
Comte, oui, se limitant au système solaire, les rapports montrent très vite, on s'inquiète, on dit, mais cet homme-là professe l'athéisme. C'est une des raisons qui va lui causer, d'ailleurs, sa place. Hein. C'est-à-dire que c'est très très mal vu, politiquement, d'accord, il s'est garanti un petit peu politiquement, il a été assez opportuniste, mais sur le plan, disons, des idées théologiques, enfin métaphysiques ou des choses comme ça, il y va carrément, il refuse ce schéma d'introduire le créateur dans l'étude de sa
société. Ce que fait aussi Arago, et en même temps il réussit Arago à faire une carrière, ouais. Et en plus Arago est ouvertement républicain,
oui,
quoi.
C'est vrai.
Anti-religieux beaucoup plus que Comte même. Dans...
Parce qu'après, Comte, il a tout un système, il justifie toujours a posteriori ce qu'il a fait ou vécu a priori, en fait. Ça, c'est... Bon. Et quand il va introduire la religion d'humanité, tout ça, il va complètement rentrer dans l'idée que, de toute façon, l'astronomie doit s'arrêter au système solaire. Parce qu'il n'y a que le système solaire qui est vraiment en interaction avec l'humanité. Voilà, c'est son idée. Si ça ne concerne pas l'humanité, c'est comme la recherche des causes, il n'y a plus à le faire. C'est un petit peu son positivisme qui revient, quelque part, qui, voilà. Et donc, c'est quand même, enfin, du point de vue scientifique, épistémologique, c'est assez problématique. Hein. Bon, faut quand même le reconnaître.
Nier, justement, l'importance des causes, c'est une façon d'éluder aussi le problème de la création.
Justement, on s'est posé plein de questions, l'autre fois peut-être un peu longuement d'ailleurs pour l'auditoire, mais et toi tu apportes des précisions encore sur cette espèce de réseau qu'on essaie de reconstituer entre la présence de ce lieu Et là, tu nous apportes encore des choses qui font qu'on est en train de reconstituer la chronologie. Alors, il y a un endroit, et il va falloir qu'on travaille là-dessus, c'est la mairie du 3e arrondissement. Mais on retrouve notre bibliothèque à la mairie du 3e arrondissement 15 ans après. Il y a quelque chose, il y a une tradition à la fois d'accueil et d'hostilité aussi, puisque c'est aussi pour surveiller quand même. Hein, et justement, ça a valu beaucoup de soucis à la petite bibliothèque des amis d'instruction, puisqu'à un moment donné, tu parles de la police, etc. C'était la même chose. La bibliothèque des amis d'instruction était priée de voir ailleurs. Bon, alors on retrouve ça. On retrouve les arts et métiers, bien sûr. Et il y a un personnage qui est fondamental, tu as inscrit son nom au début, qui est Père Donné.
Ouais.
Et dans ce que tu dis, on comprend mieux ce qui s'est passé dans la bibliothèque populaire. Alors, j'explique pour tout le monde.
Ah oui, parce que j'ai pas précisé le lien entre l'association polytechnique.
Oui, mais il y a une double tutelle dans cette bibliothèque populaire ici, qui est à la fois une fondation par des ouvriers, dont tu as beaucoup parlé, désireux d'avoir l'instruction qu'ils n'ont pas, les livres dont ils ont besoin, etc. Jean-Baptiste Girard. Et au moment où la mairie pose des problèmes à cette bibliothèque, elle est sauvée in extremis par un personnage qui s'appelle Auguste Perdonné, et on retrouve l'association polytechnique, on retrouve les arts
de l'association polytechnique.
Et on retrouve les arts et métiers. Et donc Perdonné va soi-disant sauver la bibliothèque populaire des amis de l'instruction en l'accueillant aux arts et métiers et en faisant une petite bibliothèque beaucoup moins décoiffante pour les pouvoirs politiques, puisque désormais, eh bien, le maire du 3e arrondissement est le président, désormais on regarde les acquisitions, etc. Donc en fait, tu nous donnes là le jalon qui nous manque, puisqu'on voit bien que c'est jusqu'en 1848-1852, et on fait juste un petit saut de 10 ans. Et ce saut de 10 ans, on l'a comblé l'autre jour en voyant que, justement, les héritiers spirituels de Comte sont encore dans la bibliothèque et vont donner la bibliothèque de Comte, justement, ici. Hein, donc, on voit vraiment... Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'influence. Et je ne sais pas si vous avez des archives à la Maison Comte. Moi, j'aimerais bien connaître la relation entre Auguste Perdonné et Auguste Comte. Apparemment, c'est le maillon qui nous manque ici. Puisque Perdonné, il est un peu comme Comte aussi, c'est-à-dire qu'il est très, enfin, je dirais pas frileux, mais il pense qu'il faut pas mêler la politique et les bibliothèques.
Ce qu'on voit nettement dans les bulletins, c'est que Perdonné, au départ, il est juste un secrétaire, peut-être c'est un tâcheron, hein. Il accepte, alors que Comte fait partie des vice-présidents. Mais très très vite, Comte se retire, comme l'explique Carole, mais très très vite, on va aussi réfléchir sur des grands travaux, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça, pour pouvoir donner des idées, en quelque sorte, ou techniques ou économiques. Et très vite, Père Donnel, il prend le dessus parce qu'il dit, on a une seule chose qui a marché, c'est la partie cour. Et il devient en quelque sorte président de la partie cour, lui. Mais devenant président de la partie cour, il est quasiment président de l'association, même s'il n'a pas le titre, polytechnique. Parce que finalement, c'est la seule chose qui va marcher. Ils vont maintenir les cours, mais dans l'esprit que tu as dit, effectivement, c'est-à-dire c'est quand même des cours qui sont extrêmement surveillés. Et probablement que la scission en 1848, c'est Lyonnais, François Lyonnais, qui est mathématicien, et en 1848, il a introduit la philotechnique, en disant, on ne veut pas que des polytechniciens, mais probablement aussi, on veut pouvoir avoir d'autres types de cours.
En fait, c'est la scission entre l'association polytechnique et l'association philotechnique n'a rien à voir avec celle qui avait donné naissance à l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple. Ce n'est pas du tout des dissensions politiques, mais effectivement, des professeurs autres que des polytechniciens intervenaient à l'association polytechnique, mais n'avaient aucun droit dans les discussions générales, ouais. Et donc du coup ils ont décidé de se séparer. Et puis ces associations n'ont pas du tout été concurrentes, non, il y a eu une émulation saine entre elles.
Pour les contemporains c'était vraiment pareil, puisque j'ai retrouvé en 1867 à l'exposition universelle, les deux associations sont récompensées. On donne les médailles de la philotechnique à Perdonné, qui est furieux, qui dit qu'est-ce que c'est que ça.
Et en fait il y a vraiment une espèce d'émulation saine entre les deux, et il n'y a pas de...
Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est le nombre d'ouvriers que tu décris. J'expliquais la dernière fois qu'effectivement, dans les conférences aussi des bibliothèques des amis d'instruction, on retrouve ces centaines de personnes. Et là aussi, on a du mal à l'imaginer. Ouais. On disait l'autre fois combien c'est fascinant de penser à cet appétit qu'avaient les ouvriers pour une connaissance. Et les rapports de police, moi aussi, j'en ai lu beaucoup, disent toujours qu'ils sont très attentifs, qu'ils prennent des notes, qu'ils demandent après au professeur quels livres ils peuvent consulter, etc. Parce que la police est stupéfaite, elle dit c'est pas possible, enfin, pourquoi sont-ils là, quel est le message caché.
De façon générale, moi je travaille sur les cours du soir qui ont été donnés aux ouvriers, hein, donc sur l'école du soir. Et on a quelques témoignages sur la réception de l'école du soir, en particulier par Martin Nadeau, qui justement pointe
finalement l'inadéquation entre les attentes des ouvriers, ce qu'ils recevaient dans ces cours du soir, mais et quelques articles dans le journal L'Atelier, hein, porte-parole des ouvriers, où justement L'Atelier souligner la qualité des cours de l'association polytechnique, en revanche dénoncer les cours du conservatoire des arts et métiers étant complètement inadaptés et surtout étant surtout un prétexte aux professeurs pour se mettre en avant. Et mais sinon non, j'ai pas malheureusement de témoignages sur la réception de ces cours. J'aimerais bien.
Alors réception des cours de compte, non, par contre ces cours de manière générale, oui. Puisqu'on sait que oui. Des gens comme Girard les suivaient. La légende veut qu'ils soient arrivés analphabètes à Paris, je pense que c'est faux. Mais en tout cas, ces gens ont acquis un bagage. Ils avaient des prix hein, aux associations philotechniques et polytechniques. Ils ont progressé dans l'échelle sociale. Et il y a beaucoup d'ouvriers qui se sont mis à écrire, à lire, à théoriser. Enfin...
Souvent, ça a suscité une autodidactie ouvrière à ouvrir des cours, même pour les ouvriers, même Martin Nadeau, Agricole Perdiguier. Ils vont ouvrir la cour parce que justement, ils sont très critiques à l'égard des cours qui leur sont octroyés par les élites. Et donc, ils vont ouvrir des cours eux-mêmes. Et Martin Nadeau, il y a des très belles pages dans lesquelles il dit c'est vraiment grâce à l'instruction que je suis devenue quand même députée.